France Musique.
Il muet, il inoubliable sans nom, je lance mes chaussures par-dessus bord, car je voudrais bien aller jusqu'à vous.
En quoi diffère votre travail et votre mission de ce qu'il est convenu d'appeler l'ethnomusicologie ?
Comment osez-vous vous servir d'un mot aussi horrible, n'est-ce pas ? Déjà, de considérer que des arts puissent appartenir à des études scientifiques par des ethnologues, je voudrais bien savoir quelle tête vous feriez si on s'occupait du festival d'automne, s'il y avait des ethnomusicologues qui venaient étudier les curiosités de votre comportement. C'est une conception justement colonialiste abominable qui a conduit à limiter l'étude des musiques autres que l'occidentale à des sortes d'études faussement savantes en faisant des notations stupides, en analysant que dans tel morceau il y a 25 demi-tons et 3 tons et demi et que l'accord est comme ceci. Ça n'a aucune espèce d'importance. Il s'agit d'un art par lequel des gens s'expriment et veulent dire des choses qui sont admirables.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Carnet de Voyage. Ce soir, nous partons en Éthiopie, dans le swinging Addis, dans la folie musicale furieuse de la capitale Addis Abeba, en plein âge d'or de la musique éthiopienne urbaine et moderne des années 50 aux années 70. Autant vous dire que le coup de foudre que tout un chacun peut ressentir est à la hauteur de la force abrasive, électrique et doucement sensuelle de cette pop aux couleurs uniques et à la vocalité absolument renversante. C'est son histoire, ses maîtres, ses styles, son rapport aux traditions locales que nous allons vous faire découvrir ce soir avec notre invité, Francis Falsetto. Très grand plaisir que de le recevoir et de passer cette heure et demie ensemble à Addis Abeba. Alors selon l'adage et sans plus attendre, maintenant, partons. Francis Falsetto, bonsoir.
Bonsoir.
Comment allez-vous ?
Plutôt bien.
Plutôt bien. Alors, ce qu'on écoute comme musique pour ouvrir ce carnet de voyage, c'est Mahmoud Ahmed, R.M. Lamela. Mais alors, est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la valeur de ce disque hier et aujourd'hui pour vous ?
Alors pour moi, c'est une sorte de fétiche, en fait. Tout a commencé, mes aventures éthiopiennes ont commencé à travers ce disque. C'est simplement le hasard, la chance. Je suis tombé un jour par hasard sur ce disque. Avec cette chanson titre, ça m'a secoué sérieusement et c'est ça qui m'a emmené en Éthiopie en fait. Parce que à cette époque-là, là je parle de 1984, il n'y avait aucun disque de musique éthiopienne moderne disponible en dehors d'Éthiopie.
Alors comment vous aviez eu ce disque-là en
La chance, encore une fois, un ami de Poitevin, j'étais à Poitiers à l'époque, je travaillais au Confort Moderne avec l'association L'Oreille Hardie et nous étions une bande d'allumés, musique l'humeur absolue. Et un jour, un camarade, un copain à nous qui avait rapporté ce disque d'Afrique alors qu'il était en tournée avec une troupe de théâtre française, en passant par Addis Abeba, avait acheté ce disque plus ou moins par hasard. Et 10 ans plus tard, on écoute ça et on tombe à la renverse, quoi. On était plutôt relativement savants en matière de musique d'Afrique, mais ça, on n'avait jamais entendu. Et donc, on a enquêté rapidement et on s'est rendu compte que tout le monde était d'accord, cette musique était magnifique, mais tout le monde l'ignorait, on ne savait pas d'où ça venait. Et les premiers journalistes que j'ai contactés m'ont dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? D'où ça sort ? T'en as d'autres ? D'où ça vient ?» Et donc, avec mes amis, c'était comme ça que nous programmions des concerts. C'était que des choses inconnues, belles, quelle que soit sa célébrité ou non. Et donc, un an plus tard, en avril 85, mes camarades m'ont délégué pour aller en Éthiopie à la rencontre de Mahmoud Armel et de Moulatou Astadke pour les inviter en France. Mmh. Sauf que je suis tombé dans une dictature militaro-stalinienne. J'étais totalement ignorant de l'Éthiopie, de son histoire, de sa culture. J'y étais pour une semaine alors qu'on ne peut rien faire une semaine là-bas. Enfin bref, ça ne s'est pas fait. Pas tout de suite en tout cas, ça a pris du temps.
Alors on va voir justement toute l'histoire de cette musique absolument fascinante avec vous. À commencer par quelques petits allers-retours, aussi avec des répertoires plus traditionnels. Et on va comprendre grâce à ces enregistrements les liens qui unissent cette pop sulfureuse éthiopienne du grand âge d'or des années 60-70, Mahmoud Ahmed et d'autres grandes figures. Avec par exemple ce premier enregistrement, écoutez bien, c'est la même musique. Est-ce que Mahmoud Ahmed connaissait justement ce Melamela? Alors expliquez-nous, Francis Falsetto, parce que là on entend une grande chanteuse, Asnaketch Werku, avec cet instrument du diable.
Oui, c'est comme ça qu'on l'appelle, oui, le Satan, l'instrument de Satan, l'instrument du diable, oui.
Qui est-elle, cette chanteuse?
Une grande artiste, et une des premières femmes à être montée sur scène, à une époque, début des années 50, où monter sur une scène pour une femme, alors que c'était jusque-là les hommes qui jouaient les rôles de femmes, c'était scandaleux, c'était être assimilé à une prostituée. Donc c'est une grande pionnière de la liberté d'expression. Elle n'est pas une Asmari, elle n'est pas une ménestrelle traditionnelle. Elle a toujours vécu en ville, mais très tôt, elle a joué du krartz, donc cette lyre à six cordes. Et c'était une femme d'un esprit très très libre, pour ne pas dire libertaire. Et en fait, elle est plus encore qu'une actrice de théâtre ou une danseuse. Elle est célèbre à cause de son chant, de son jeu de krar, de sa langue bien pendue, de sa proclamation de la liberté, et aussi son sens d'un certain blues, d'une certaine manière.
Et donc ce Mela Mela, Francis Falsetto, que chantait Mahmoud Ahmed, super tube, c'est une chanson qu'il connaissait?
C'est une chanson qui appartient au fond traditionnel, que tous les Éthiopiens connaissent. Et ce qui est intéressant de mettre en miroir ces deux interprétations, c'est qu'on voit à quel point la musique moderne est redevable au fond traditionnel de la musique éthiopienne. Avant qu'il y ait de la musique moderne, c'est-à-dire quand il n'y avait que de la musique traditionnelle, c'est-à-dire des instruments locaux, comme le krar, le masinko, qui est une vielle monocorde à archer, washin, qui est une flûte, le kebero, qui est une percussion. C'est l'arrivée, l'irruption des instruments européens, coloniaux, et qui a fait qualifier la musique de moderne. Et elle s'est inspirée, naturellement, du fond traditionnel. Et donc, cette chanson Mela Mela, ce serait difficile de dire à quand elle remonte. Mais c'est clair qu'elle existait bien avant que Mahmoud fasse sa version moderne. Et d'autres chanteurs aussi. Il y a plusieurs versions de Mela Mela.
Francis Falsetto, Chelela Fouquera, Kererto, ce qu'on vient d'entendre, moi, me bouleverse complètement. Qu'est-ce que c'est?
Ça n'était pas considéré jusque très récemment comme appartenant au genre musical. Ce sont des jactances, des chants de guerre, des cris, des hurlements, des égosillements qui sont souvent proférés avant d'aller au combat ou après le combat, après la victoire. C'est extrêmement vindicatif ou encourageant pour les guerriers. C'est souvent très des louanges personnelles ou des auto-louanges, si je puis dire. Et ça illustre parfaitement le nationalisme profond des Éthiopiens.
Mais donc c'est quand même stigmate un petit peu quand même de la guerre 35-41 de l'occupation italienne ou pas?
C'est bien plus ancien ça.
C'est plus ancien.
Ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait cette musique-là, elle appartient au domaine, disons, des chrétiens des hauts plateaux, qu'ils soient principalement Amara ou Tigréens. C'est une partie des multiples culture musicale qu'on peut trouver en Éthiopie. Alors là, on va rentrer dans une dimension absolument fascinante aussi de cette musique, de ces jactances, de ces fulgurances vocales, Francis Falsetto. C'est vrai qu'à vous écouter, vous dites genre épique, héroïque, belliqueux, bien plus ancien que l'occupation italienne. Oh là, c'est oui,
de,
c'est
de 35-41.
Absolument.
Mais encore pratiqué aujourd'hui?
Bien sûr. Certainement moins que les siècles précédents ou les décennies précédentes, parce que fort heureusement, le pays est moins en guerre. Il y a le duc de Bretagne local et le prince de Bourgogne sont moins souvent en guerre depuis qu'il n'y a plus d'empire, si vous voulez, et de chefs régionaux. Mais vous avez toujours, dans certaines régions, en particulier ce qu'on vient d'entendre, qui ont été enregistrés au début des années 2000 par Getir Gelaye, un chercheur éthiopien de l'université de Hambourg, enregistré au Gojam, c'est une région où encore cette tradition est très vivace. Ces choses-là sont encore, ou même quand les gens sont un petit peu éméchés dans un bar, ça m'est arrivé quelquefois d'entendre des Éthiopiens un tout petit peu éméchés partir dans des grands solos comme ça de hurlements. Et tous les Éthiopiens comprennent de quoi il s'agit. C'est quand même encore très ancré dans la culture, absolument. Et on le verra peut-être tout à l'heure avec les adaptations modernes de ce genre.
Bien sûr, alors à commencer Francis Falsetto par un enregistrement fascinant aussi de Lomax, de Alan Lomax, parce que...
C'est pas un enregistrement de Lomax, c'est un enregistrement qui est dans les archives Lomax.
Ah, mais qui n'a pas été enregistré par lui.
Non, absolument pas. Il n'a fait aucun enregistrement en Éthiopie, personnellement.
Donc ce qu'on va entendre, c'est quoi? C'est plutôt années 60, 70?
C'est ça, ça remonte aux années 60, oui.
Et vous allez voir, chers auditeurs du carnet de voyage, le rapprochement avec cette vocalité qui est au saxophone. Un enregistrement une nouvelle fois absolument fascinant de ce saxophone qui hurle au sens de cris qui nous bouleversent et qui a un rapport avec ce qu'on entendait précédemment, Francis Falsetto, Quererto, Fouquera, Chelela, qui sont des genres belliqueux.
Absolument, des genres égosillés. Il faudrait trouver un vocabulaire assez recherché pour définir ce genre d'égosillement.
Et qui peut faire penser au free jazz complètement.
Ah, musicalement, quand
Albert
les
Taylor,
versions modernes
Coltrane.
Comme ça. Total. Et quelqu'un comme Getachew Mecuria, ça n'est pas Getachew qui joue ici, a commencé fin des années 40, début des années 50 à faire ce genre d'adaptation
moderne.
Mais donc,
sans connaître Albert Taylor qui n'était pas encore...
Albert Ayler, c'est 1960-61, avec Ornette Coleman, les débuts du grand début du free jazz. Je peux certifier qu'ils n'ont aucune culture jazzistique. Et de toute façon, c'était 10 ans avant l'avènement du free jazz. Donc c'est vraiment étonnant qu'il y ait comme ça des rencontres formelles, esthétiques, entre deux genres musicaux qui n'ont pas de parenté, pas de filiation, qui sont développés à 10 000 kilomètres de distance.
Alors ce genre justement, enfin c'est ce genre belliqueux, on va dire héroïque, épique, trouve des avatars dans une culture qui s'est officialisée. On va voir l'histoire justement de la pop éthiopienne dans son rapport avec les orchestres institutionnels. Mais en gros, on va trouver, de ce qu'on vient d'entendre, de Shelela Foukerto, des versions, on va dire, orchestres, assez polissées, assez vernies.
Et des versions culturelles, des versions folklorisées. Depuis l'après-guerre en Éthiopie, c'est-à-dire depuis les années 40, il y a plusieurs théâtres à Addis Abeba. Et des artistes professionnels, salariés au mois, et donc qui connaissent évidemment ce répertoire. Et donc le rendu de ce genre musical, on a vu initialement les enregistrements faits dans le Goljam ou ailleurs, où c'est des kidam qui hurlent. Et là, on va voir, ou plutôt entendre, quelqu'un qui est un artiste professionnel, sinon officiel. Donc c'est un peu plus folklorisé, un peu plus polissé, c'est mise en scène, mise en onde presque.
Avatar du Shelela Foukara Kererto, de tous ces genres épiques, héroïques, que le chanteur d'ailleurs cite un enregistrement des années 60, Francis Falsetto, donc dans une version un petit peu plus policée, institutionnelle. On va parler de ce rapport. Mais globalement, à Addis Abeba, dans les années 60, vous avez des orchestres institutionnels et puis des groupes qui vont commencer à émerger.
Essentiellement des groupes jusqu'à la fin des années 60. Les premiers groupes privés, si on peut dire, indépendants, guerre avant 1968-69. Mmh, avant, ça n'était que des groupes institutionnels sous la coupe du gouvernement de l'empereur Haïlé Sélassié. Vous aviez le plus célèbre, on peut le dire, c'était l'orchestre de la garde impériale, Imperial Bodyguard Band. Vous aviez l'orchestre de la police, l'orchestre de l'armée, et toutes ces variantes, la marine, l'aviation. Vous aviez l'orchestre de la municipalité d'Addis Abeba.
Dans un style quand même assez pompier, c'est de la fanfare.
C'est-à-dire qu'au départ, c'était essentiellement des marching bands, mais progressivement, depuis les années 40 jusque, disons, au milieu des années 50, au moment où le théâtre à Ilé-Sélassié a été organisé, qui lui aussi avait un orchestre extrêmement brillant, petit à petit, il y avait des sections de musique légère, de danse, des jazz, on appelait ça quelquefois, qui étaient beaucoup plus importants, qui ont pris le dessus. Et c'est eux qui représentaient la musique moderne en Éthiopie. Et l'intelligence, la modernité de la chose, c'est que devant ces orchestres, grands orchestres, en particulier avec des sections de cuivre innombrables, on a planté des chanteurs et des chanteuses qui à travers leurs paroles, disaient ce qu'il fallait dire en général. Bien sûr, il y avait une liberté de création, mais...
Mais vous me disiez d'ailleurs que pour les Éthiopiens, et notamment pour tous les chanteurs qu'on va voir, dont Mahmoud Ahmed, Laoune Gessessé, etc., ce qui compte, ce qui fait que leur chant est reconnu, ce n'est pas forcément les effets de la vocalité, mais c'est le contenu des textes.
Absolument. C'est dans la culture éthiopienne, ce sont la musique, pour eux, ce sont d'abord les paroles. Nous, ce que nous appelons musique, ça ne les, c'est pas dire que ça les concerne pas, mais ça les concerne guère et de toute façon au second degré. Nous avons de l'intérêt pour le grain de la voix, pour la brillance instrumentale, pour les arrangements sophistiqués. Rien de tout ça en Éthiopie. A priori, bien sûr, ils peuvent y être sensibles. Mais c'est le contenu, la voix, les paroles. Et on verra tout à l'heure, j'espère, comment certaines chansons ont été presque des mots d'ordre révolutionnaires, des protest-songs, et ont conduit leurs interprètes en prison.
Addis Abeba, enregistrement d'un concert événement en 2004, Francis Falsetto, avec ce saxophoniste que vous devez absolument nous présenter, Getachew Mekuria, qui est-il ?
Getachew Mekuria, c'est vraiment le grand ancêtre qui a innové justement ce genre, Chilla Fukera, au saxophone. Il a commencé dès la fin des années 40, dès le début des années 50, à faire ce genre d'adaptation. Et je crois que maintenant, comme il est venu beaucoup jouer, tourner en Europe, aux États-Unis cette dernière décennie, soit avec le Heizer Orchestra de Boston et aussi et principalement avec un étrange groupe plutôt punk hollandais, ZX. Il a une certaine renommée, même si évidemment tout le monde n'a pas de disque.
Renommée qui est aussi bien sûr liée à cette magnifique collection dont vous êtes le démiurge, éthiopique, 29 volumes. Vous me disiez qu'il y en aura encore peut-être une dizaine, mais que du coup vous avez des groupes américains qui ont entendu toute cette collection éthiopique et qui se sont mis à jouer de la musique éthiopienne jusqu'à ce concert en 2004 que vous avez organisé.
Absolument, c'est un phénomène connexe que j'ai absolument pas anticipé. C'est une fois que cette collection s'est développée avec un certain nombre de disques publiés très différents les uns des autres, que autant de musiciens sur tous les continents, hein, d'Amérique du Nord, du Brésil, du Japon, d'Israël, d'Australie, de toute l'Europe, se soient mis à faire des adaptations de toutes sortes. Vous avez du free, vous avez du punk, vous avez du jazz, comment dire, middle of the road, plan-plan, vous avez des choses très énervées, vous avez de la musique contemporaine, vous avez même des gens comme le Kronos Quartet qui a fait des adaptations de morceaux de Getachew Mekuria. Enfin, il y a une sorte de fan club actif qui s'est développé autour de cette musique, pour le meilleur et pour le pire. Je ne veux pas dire que tout soit génial, naturellement. Mais enfin, il n'empêche, pendant une dizaine d'années, j'ai animé avec quelques amis éthiopiens un festival de musique éthiopienne à Addis Abeba. Et en janvier 2004, nous avons invité ce groupe Isa Orchestra de Boston, donc, à jouer avec Getachew Mekuria et quelques autres artistes éthiopiens. Ça a été un événement incroyable. Mais je dois dire que pour moi-même, avant le début du concert, au tout début du concert, j'étais extrêmement inquiet sur ce qu'allait être la réaction des Éthiopiens. Audience à 90-95% éthiopienne. Je le laissais tellement fier de leur culture, tellement chauvin presque, tellement nationaliste que j'avais presque peur qu'ils disent « Mais qui c'est cela? Ils viennent nous voler notre musique ou quoi ?» Et en fait, il s'est passé le contraire. C'est au bout de trois mesures, les gens ont été dans un état d'émotion, de trépignement, absolument incroyable, quoi. Et les années qui ont suivi, on a invité tous les ans des groupes venant de pays improbables. Et ça fonctionnait à chaque fois. C'est d'abord la fierté d'être éthiopien, de la musique éthiopienne jouée par des étrangers qui l'ont porté sur le rendu. Est-ce que c'est fidèle aux gammes éthiopiennes, aux beats éthiopiens ou pas? C'est modérément important. En l'occurrence, c'est la fierté nationale qui l'emporte.
Avec toujours le même saxophoniste.
Ah, absolument, Getachew Mekuria. Oui, il y a une solide section de cuivre aussi, ami de Ziyech derrière. Hein. Il n'est pas tout seul pour ce riff qui a été conçu il y a 60-70 ans par Nerzet Albandian.
Alors, on va voir une histoire hallucinante des Arméniens en Éthiopie.
C'est lui qui a établi la structure moderniste, entre guillemets, de ce genre vocal traditionnel.
Alors on va le voir justement en Albandian, mais vous parliez encore de côté traditionnel. En Éthiopie, on avait fait des émissions aussi dans ce carnet voyage qui évoquait cette communauté, est-ce que le terme est approprié, d'Azmari, qui sont, alors comment les caractériser, qui sont des gens dont on se méfie, mais qui sont de formidables improvisateurs, qui ont aussi une langue bien pendue.
C'est un peu l'équivalent de nos ménestrels médiévaux. Ce sont des ménestrels ambulants, itinérants. Au départ. Depuis qu'il y a quelques villes en Éthiopie, ils se sont urbanisés aussi, bien sûr, mais Ce sont des gens qui viennent de la campagne et qui sont, on peut le dire, castés. On est Asmari de père en fils, de mère en fille, sur des générations. Et pourquoi on les aime? C'est parce que c'est eux qui sont les représentants de la libre parole, d'une certaine manière. Ils sont la bonne et la mauvaise conscience, pour ne pas dire l'inconscient du peuple éthiopien. Avec un langage d'un double sens, double entendre, comme disent les anglo-saxons, qu'ils appellent Sireor, Samena Work, vous avez un sens superficiel, il y a un sens profond. Évidemment, on s'abrite, on se cache derrière le sens superficiel, mais ce qui est intéressant, sont le sens profond, qui est souvent critique, ou qui parle de choses qui ne sont pas proprement parlées très religieuses.
Ah, vous me disiez qu'ils s'emparent des deux tabous principaux, à savoir la politique et le sexe.
Bien sûr. Oui, ce sont les grands tabous universels. Ils sont très forts pour ça. Mais si on les aime pour cette liberté de parole, on n'irait pas jusqu'à leur donner leur fille ou votre fils ou votre fille à marier. Il s'agirait de mésalliances, là.
Alors écoutez bien cette musique magnifique des Asmari. Musique des hauts plateaux chrétiens d'Éthiopie, Francis Falsetto, mais qui est joué à Addis Abeba par ses Asmari et cette vocalité hallucinante avec la Vielma Sinko qu'on entend ici.
Il faut citer la voix de Étienne Choissier et le Masinko de Gzate Egelay, qui nous a quittés il y a quelques années, très brillant exposant de cet instrument difficile à jouer. C'est un monocorde après tout, hein. Et le morceau, c'est un des grands standards des 70-80 dernières années, qui aussi considérait souvent comme un mode musical de référence, avec Tizita, Mbassel, Bati et Ancio Yelane. Tout porte à croire que l'antiquité que les Éthiopiens en général voudraient attribuer à ces modes musicaux soit petit peu moins ancienne qu'il le seul figure. Tout porte à croire que ça date des années 1960 et que c'est un concept qui a été inventé pour faciliter l'étude de la musique, l'enseignement musical. Enfin bon, c'est des histoires d'ethnomusicologues.
Alors justement, vous parliez d'Ambassel, de ça. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a une idée d'accord ou de couleur ou de qui fait genre, et qu'on retrouve aussi dans le répertoire de cette pop éthiopienne.
Absolument.
Mais pas métamorphosé, parce qu'on reconnaît, les Éthiopiens reconnaissent vraiment Ambassel, etc.
Tout à fait. Oui, c'est encore une fois, si on doit résumer qu'est-ce que la musique moderne, pas seulement en Éthiopie, dans tous les pays d'Afrique, on peut dire que c'est la musique traditionnelle plus l'appropriation des instruments occidentaux.
Alors ce qu'on va entendre, Francis Falsetto, c'est un des grands chanteurs, Alemayou Echete, alors il faut quand même expliquer qu'il reprend le côté slow fast d'un grand tube de la pop éthiopienne.
Et quelques années auparavant, un des plus grands tubes de tous les temps, un des plus grands hits de tous les temps de la musique moderne éthiopienne, c'était Tizita Slow et Fast, deux versions enchaînées par le chanteur Getachew Kassa. Et Alemayou, je pense, a voulu refaire le coup avec Ambassel. Donc il a fait un Ambassel slow et un Ambassel fast. L'Ambassel fast est très rare. Mais je trouve que c'est une réussite assez magnifique. Personnellement, je trouve Ambassel plus bluesy et plus rock dans ses versions rapides que Tes États, qui en général est une sorte de blues symbolique absolu de l'Éthiopie pour beaucoup d'Éthiopiens.
Alors on écoute justement la fin de cet Ambassel, mais dans la première partie slow, et puis l'enchaînement. Le début, l'enchaînement avec la partie fast.
Ageradum abetiji, adelantam abetiji, agombelsham aibetmeji, mingizem yeni eunesh, mechem hatameji.
Par Alemayou Echete, qui est une des grandes figures en Éthiopie de la nuit d'Addis Abeba des années 60-70. Je crois que j'aurais payé cher Francis Falsetto pour me télétransporter en arrière et vivre quelques heures, quelques jours.
Oui, je serais bien voulu être teenager dans les années 60 en Éthiopie.
Alors qui est-il, Alemayou Echete?
On le crédite de James Brown éthiopien, de Elvis Presley éthiopien, mais personnellement, je suis très très fan de ces slow, ces chansons blues. J'aime beaucoup cette version fast, rapide d'Ambassel, mais il a fait tellement de chansons lentes, mais vraiment bluesy, quoi. Vraiment, je trouve Alors que sa réputation, encore une fois, a été fondée sur une sorte d'imitation de James Brown, je trouve que c'est un des grands bluesmen de l'Éthiopie.
Alors justement, on va vous parler du blues, on va écouter...
Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il sort du Police Orchestra, ce qui n'est pas ordinaire.
Pourquoi ?
Je veux dire, je voudrais bien que l'orchestre de la garde républicaine ait sorti des Allez Mayou et Chété français. Vous voyez, j'imagine pas Edith Piaf ou Alain Souchon avec la garde républicaine.
Donc, Elvis Presley a joué pour les armées américaines.
Oui, mais l'orchestre, quand même, l'orchestre de la police. Je veux dire, vive la police dans ces cas-là, quoi, presque, si j'ose dire.
Alors, vous parliez, Francis Falsetto, du côté bluesman d'Allez Mayou et Chété. Justement, on n'avait pas prévu de le passer, mais écoutez ce super tube.
Ya salasal kush kan farin sanyi ko wa nabarachi malat manfasin awako
al talayeshim dia andaza ba Adiche shalau ke me benafot lago al tereye shime ndia hao ndazabet At the chisel, me, but I've got the lago. Yes, and I'll say, Goosh, conference, I need to never achieve my head, man, Yes, I can guarantee you'll let me And there's a bed At the chisel, okay, man. But I've got
to Yes, I'll sell Kush. Can ነበረችኝ ማለት መንፈሴን አወቀው የሰቀቀኑን ጽፍ የመለየት መርዶ ለምን ታልሽ ፍቅሬው የሐዘን በረዶ
Musique à tomber par terre, celle d'Allez Mayou Echété dans... Allez, ce cadre, on va dire, esthétique de la musique éthiopienne qui est tellement attachante aussi pour ça, c'est-à-dire cette espèce de nostalgie qui n'est pas universelle mais qui nous touche énormément, nostalgie qui a, ou vague à l'âme, ou mélancolie, qui a un genre qu'on appelle, Francis Falsetto, Teseta, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on doit entendre là?
Basiquement, enfin, le littéralement, c'est le souvenir. Mais ça, c'est surtout la nostalgie, le mal d'amour, le mal du pays, c'est tout ça qu'on met dedans. Bon, ça n'est pas un Teseta à proprement parler, mais ça a ce site commun avec Teseta, c'est, oui, je trouve pas d'autre mot que bluesy, blues, c'est des chansons déchirantes tout de même.
Mais qui ont donc été interprétées aussi juste après la guerre, dans des, on va dire, des esthétiques plus traditionnelles, notamment avec le krar.
Bien sûr, c'est krar masinko, c'est une chanson d'Azmari au départ. Et les premières versions modernes sont venues seulement dans les années 60. Il y a au moins 200 versions de Teseta. Chaque chanteur qui se respecte, chaque chanteuse qui se respecte, interprète un jour ou l'autre Teseta.
Alors voici une version donc justement avec la harpe krar.
Kanfere marne jeli bet zeda, endet ulal panchini atauleta, endet ulal panchini atauleta. Moyala genye ushi moyala taushi, moyala genye ushi moyala taushi. Beli belai huno mbelali shashi. Beli belai huno mbelali shashi. Beli belai huno mbelali shashi. Tazash maraki yele bumi karta. Tazash maraki yele bumi karta. Ye mete kawata weni banchi fanta. Ye mete kawata weni banchi fanta. Ye mete kawata weni banchi fanta.
Ketema Mekonnen dans cette pièce Teseta qui est plus qu'une pièce en réalité, vous nous disiez Francis Falsetto.
Un standard, oui.
Un standard, une lumière, un accord,
oui,
une couleur.
Une chanson de référence.
Nostalgie, vague à l'âme.
Nostalgie, oui, absolument. C'est bon pour tous les mal d'amour, les mal du pays, pour toutes ces choses-là.
Est-ce que c'est entretenu, cette nostalgie en Éthiopie?
C'est nécessairement entretenu depuis qu'il y a une importante diaspora. Qui évidemment s'est conjugué avec des événements politiques dramatiques. Quand la révolution est arrivée en 1974, certes, il y avait quelques Éthiopiens vivant à l'étranger, mais rien comme aujourd'hui ou comme cela s'est développé à partir du milieu des années 70. Et donc, qui dit diaspora dit mal du pays aussi. Presque tout Éthiopien a quelqu'un de sa famille qui vit à l'étranger. Et donc, ça, ne serait-ce que pour le mal du pays, ça fonctionne beaucoup.
Alors, cet état avec le krar date de 1974. En fait, quasiment donc à la même époque, Mahmoud Ahmed chante aussi énormément de versions.
Il y a plusieurs versions. Et en particulier, une de celles qui a mes faveurs, c'est celle qu'il a enregistrée avec la garde impériale, l'orchestre de la garde impériale, qui sonne, à mon sens, comme... Les orchestres de la Nouvelle-Orléans qui conduisent des obsèques. Il y a un côté, alors là, le côté blues est profond et présent. C'est, je crois, personnellement, une de mes deux versions préférées de Teseta par Mahmoud Ahmed.
She's a wadene yemeta tizta shizo tir wadene yemeta efo yemelebete hiwoti gizata efo yemelebete hiwoti gizata Baine ya yushno hodene mimso maletin man maaukau maletin man maaukau kele bost gebtu kalas chenekau kele bost gebtu kalas chenekau Holgize kalaita chine me baznew Holgize kalaita chine me baznew Ye godelo morto yihonal biyenew Ye godelo morto nihonal biyenew La la lini negere agulke emelfatu La la lini negere agulke emelfatu Yishale nyihonale angetene medfatu Yishale nyihonale angetene medfatu
versions les plus belles, selon vous, Francis Facelto, de ce Tezeta par Mahmoud Ahmed avec l'orchestre de la garde impériale. Alors là, on va rentrer dans une dimension absolument passionnante de cette histoire de la musique à Addis Abeba, liée aux institutions, donc orchestre de la garde républicaine, Mahmoud Ahmed...
Garde impériale.
Garde impériale. Oui, on rêverait de la même chose ici. Mais donc, pour dire que chaque chanteur, Kaunge Sese, Mahmoud Ahmed, etc.
Les Mayou Echete, tous ces gens-là sortent.
Sont obligés de chanter dans ces formations.
Il n'y avait pas d'autre alternative. C'était pas possible d'avoir un orchestre, un band, indépendant, personnel. Vous pouviez pas, vous mettre avec quatre ou cinq copains et faire les chaussettes noires ou, les chats sauvages.
Mais est-ce que, par exemple, ces musiciens de la garde impériale, aller s'encanailler, par exemple,
bien
dans
sûr.
Des clubs.
Bien sûr. Et ça leur coûtait des arrêts de rigueur, c'était interdit, mais ils le faisaient.
Mais ils le faisaient quand même.
Bien sûr. Et c'est comme ça qu'un jour, Mahmoud Ahmed a pu se retrouver membre de la garde impériale. Au départ, il n'était pas chanteur. C'est quelques éléments de la garde impériale qui se produisaient plus ou moins clandestinement dans un club, la Arizona Club. Où Mahmoud était marmiton, faisait un peu la cuisine, faisait des petits travaux. Le chanteur soliste était absent un soir et Mahmoud a dit « Mais moi, je peux chanter, je connais les chansons. » Et ça a tellement impressionné les musiciens qu'ils l'ont introduit auprès des responsables de la garde impériale. Il a passé quelques tests et il a été embauché comme chanteur soliste. Et il a commencé comme ça sa carrière début des années 60, 1962, sauf erreur.
Alors, dans le même état d'esprit et surtout avec la même formation, l'orchestre de la garde impériale, on va écouter un enregistrement aussi saisissant qui a un double sens et une histoire passionnante avec un chanteur Kaunge Sese, justement.
Qui est lié absolument est lié, à la garde impériale, bien entendu.
Donc, coup d'État quand même historiquement en 1960, avorté, enfin,
oui,
qui ne réussit
oui,
pas.
Oui.
Quoi.
Et c'était cette chanson, Al-Chalkoum, qui veut dire grosso modo « j'en peux plus », qui est censée être une histoire d'amour malheureuse. En fait, ça veut dire « j'en peux plus » de ce régime. Et c'était le chef de la garde impériale qui était le commanditaire, le principal organisateur du coup d'État. Et c'était lui aussi qui demandait aux chanteurs de chanter cette chanson, soi-disant love song, mais protest song.
Et donc une des hypothèses que vous avez, Francis, c'est que ce qu'on va écouter ici est en duo entre Kaunge Sese et Bzounech Bekele, c'est ça ?
Oui.
Qui est une femme ?
Qui est une femme.
Et c'est une mascarade amoureuse, en fait.
C'est-à-dire que la chanson est un tel succès qu'ils ont voulu démontrer que c'était vraiment une chanson d'amour. Et après le coup d'État avorté, ils ont demandé que ce soit un homme et une femme qui chantent pour que ça ait l'air moins. Mais pour les Éthiopiens, ça restera toujours une chanson de protestation.
Thank you.
Taungesese Bzunashe Bekele avec l'orchestre de la garde impériale en 1960. Et cette histoire avec ses lieux à Addis Abeba, ses formations, donc en dehors de cet orchestre, Francis Falsetto, vous me disiez, il y a aussi l'orchestre d'un théâtre, en l'occurrence le théâtre Haïlé Sélassié, qui a été inauguré en 1955.
Absolument. C'est vraiment un des lieux où la musique moderne a pris son élan, des lieux les plus intéressants, des orchestres les plus performants, avec en particulier un grand compositeur, un grand arrangeur d'origine arménienne, Nelson Nalbandian, qui était le grand maître d'œuvre de ces orchestres au théâtre Haïlé Sélassié. Et le morceau qu'on va écouter, c'était une sorte d'indicatif. Pour chaque concert, on commençait par ce morceau qui s'appelle Amara Rumba. Rumba, qui était donc systématiquement donné en tout début de soirée au théâtre Haïlé Sélassié. Donc là, nous sommes à la fin des années 50. Ce théâtre qui a ouvert en 1955, qui accueille son orchestre. C'est une des grandes formations de l'époque. Et alors, Francis Falsetto, en lisant vos différents articles, vos différents écrits, moi j'étais absolument bluffé par l'histoire de ces Arméniens. Vous évoquiez la personnalité de Nerses Nalbandian, qui est cet arrangeur arménien qui arrive quand et comment en Arménie? Et ça commence par son oncle qui est arrivé, lui, en 1924, avec une troupe de 40 jeunes orphelins arméniens rescapés du génocide perpétré par les Turcs, et que celui qui n'était pas encore Haïlé Sélassié, Rasteferi, a ramené, si j'ose dire, de Jérusalem, où ils étaient depuis une dizaine d'années. Et il les a ramenés en Éthiopie pour être la musique impériale. Mais l'intérêt, c'est que les accompagnait un professeur de musique, un chef de musique, qui était Kevork Nalbandian, l'oncle de Nerses. Et ce Kevork est sûrement un des tout premiers artisans de la modernisation de la musique éthiopienne. Et en particulier, il a écrit le premier hymne national éthiopien en 1924, qui a été joué en Éthiopie jusqu'à la chute d'Haïlé Sélassié pendant un demi-siècle, jusqu'en 1974. Il a fait venir son neveu Nerses dans les années 30. Et Nerses, depuis, disons, l'après-guerre, depuis le début des années 40 jusqu'à sa mort en 1977, a été certainement le grand parrain de la musique moderne éthiopienne. Un musicien qui a fait énormément pour son développement, qui n'a pas cherché à occidentaliser particulièrement cette musique. Sans compter qu'il y avait un certain nombre de rapports, de relations entre Arméniens et Éthiopiens, ne serait-ce qu'au niveau religieux. Les Arméniens sont parmi les premiers chrétiens, comme les Éthiopiens sont les premiers chrétiens d'Afrique. Et Nerses Nalbandian était un compositeur hors pair et un arrangeur insensé. Extrêmement exigeant, travailleur acharné. Aujourd'hui encore, vous trouvez des vieux musiciens qui vous parlent de Moussié Nerses et qui en parlent avec beaucoup d'émotion. C'est quelqu'un. Enfin, il y a tellement d'histoires à raconter, des drôles et des moins drôles. En particulier, le Derg, par exemple, a voulu avoir un nouvel hymne national. Donc ils ont fait un concours sur enveloppe fermée, tout ça. Et le résultat du concours, ça a été Nerses Nalbandian. Et le dictateur Mengistu a dit pas question, ça peut pas être encore un Arménien, ça peut pas être un blanc. Donc exit Nerses Nalbandian. Pareil, hymne africain, hymne continental. c'est Narcisse Apollinaire qui l'écrit. Ça s'appelle Africa, Africa. Mais pour l'inauguration, on ne peut pas le laisser, lui, un blanc, même s'il avait obtenu, ce qui est rarissime, la nationalité éthiopienne, on ne pouvait pas le laisser diriger. Donc, il dirigeait caché dans les coulisses et il y avait un pantin qui regardait dans les coulisses quel geste il fallait faire pour diriger l'orchestre. Enfin, des anecdotes comme ça concernant Nersès, des anecdotes très attristantes comme celle-ci, il y en a un paquet.
Alors justement, vous parliez de 1963. Là, nous sommes un an avant, en 1962, et vous parliez du génie de Nersès Nalbandian en tant qu'arrangeur-compositeur. Et ben voilà, c'est un live au théâtre Ali Selassie que vous entendez avec un arrangement de Nersès Nalbandian.
Gréman et Gage.
Un enregistrement aussi qui a une très forte valeur historique et esthétique. 1962, un live au théâtre Ali Selassie avec cet arrangement, et on s'en rend compte, aux petits oignons, dentelles, Nersès Nalbandian, très grande figure de toute la musique éthiopienne. Francis Falsetto, vous nous racontez cette histoire fascinante des orchestres éthiopiens de ces années-là, de ces différentes formations institutionnelles. Est-ce que les musiciens de ces orchestres étaient connectés au reste du monde, étaient connectés à la musique anglaise, voire américaine?
Oui. Ce qui est remarquable, surtout dans les années 60, c'est les influences de la soul music, du rhythm and blues, du rock and roll, et plus tard du twist et toutes ces choses-là. Non, c'est arrivé en Éthiopie. C'est un des rares moments dans l'histoire de l'Éthiopie, en particulier de l'Éthiopie moderne, où on a le sentiment que ce pays était in tune, comme on dit en anglais, avec le reste de la planète. J'étais moi-même un teenager à cette époque-là. Je sais bien comment et pourquoi j'aimais Elvis Presley, Little Richard ou Bo Diddley. Et il s'est passé une chose similaire là-bas. C'est une des raisons pour lesquelles on a attribué à Lemayou Echete le surnom
de James Brown, de Elvis Presley,
mais aussi à quelqu'un comme Seyfu Yohannes. On l'a aussi taxé d'être une sorte d'Elvis Presley éthiopien. Enfin, ils avaient tous les symptômes, si j'ose dire, du rock and roll, du rhythm and blues, de la soul. Ils se roulaient par terre, c'était puissant vocalement. Enfin, et d'ailleurs, un des premiers orchestres indépendants s'est appelé Soul Echoes. Et dans des interviews, les musiciens disent on veut faire écho à nos frères de la soul music aux États-Unis. Enfin, il y avait absolument, ils étaient tout à fait perméables à des influences ultramarines.
Alors justement, avant d'entendre ce premier groupe indépendant, les Soul Echoes que vous évoquiez, Francis Falsetto, l'orchestre de la police de Harare dans quelque chose, mon avis, que les auditeurs connaissent. We'll be right back. Ben oui, c'est l'orchestre de la police de Harar,
oui,
ville de garnison, qui joue ce Hold the Talof de Led Zeppelin.
Oui, enfin, qui s'est appuyé beaucoup sur le riff essentiel. Les paroles divergent un petit peu, mais c'est guitariste et chanteur Wegaeu Dagnetu. C'est important de le citer parce qu'il est quand même pas très connu sous nos latitudes. Mais oui, c'est tout à fait insensé que vers 1970, il y avait un orchestre de la police dans la ville de Harar et qui était suffisamment au courant de ce qui se passait en Europe, de à la mode et de un petit peu quand même péchu, énervé, pour l'adapter. Enfin, je veux dire, c'est...
Alors, ces orchestres ont muté en quelque sorte parce que le premier groupe indépendant voit le jour en 1968-69.
C'est difficile à dire, mais c'est à la fin des années 60, à l'initiative de Hama Echete, le premier producteur de disques indépendants qui a fait ça contre la loi. Hein, c'était un monopole d'État.
Oui,
hein, il a aidé à former ce jeune groupe, Soul Echoes, avec un certain nombre de chanteurs, et en particulier Seifu Yohannes, qui malheureusement est mort trop jeune, nous a laissé très très peu d'enregistrements. Et là, cet enregistrement de Mela Mela est un de ces enregistrements un peu provocateurs, où le blues original est un petit peu malmené et énervé.
Ere mela mela,
mela mela,
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 ere mela e kere ne vki, tere si chale hui,
mela mela.
Groupe indépendant de Soul Echoes que vous citiez Francis Falsetto dans ce Mela Mela, et nous arrivons à la fin de ce carnet de voyage absolument passionnant. Il y aurait tant à dire et à écouter, bien sûr. Mais je renvoie les auditeurs à vos magnifiques éthiopiques. Il y a 29 volumes en l'état, donc précipitez-vous. Et pour finir, peut-être sur une personnalité touchante pour vous et pour plusieurs raisons, celle de Girma Beyene.
Touchante, oui, parce que c'est quelqu'un qui est malade de modestie, à la différence d'aucun, comme Moulatou Astatke, pour ne pas le citer, qui exagère un petit peu sur l'auto-célébration. Girma Beyene, en fait, était chanteur, compositeur, pianiste, mais surtout arrangeur. Il a été suractif du tout début des années 60 jusqu'au début du DERG. Il a pu s'échapper du paradis stalinien du général et colonel Mengistu en 1981. Donc pendant une vingtaine d'années.
À la faveur d'un voyage.
À la faveur du premier voyage d'un groupe, celui auquel il appartenait à l'époque, le Wailes Band, invité par Amaï Chete, qui était alors en exil à Washington. Donc pendant 20 ans, il a été l'un des plus actifs de la scène moderniste éthiopienne. Et c'est bien qu'on conclue sur lui, parce que c'est quelqu'un qui ne fait rien pour se faire reconnaître et qui a laissé derrière lui une quantité de pièces absolument magnifiques. Et même si cela heurte sa modestie, c'est bien de finir avec lui. C'est quelqu'un qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire pour redécouvrir tout ce qu'il a fait.
Un grand merci à vous, Francis Falsetto.
Merci.
Workinku almas nesh. Ethiopia with loga hulu yadenekesh kakolaske dega yihew yetilishin enchi metasebia simish no kengidih wezerit Ethiopia simish no kengidih wezerit Ethiopia. Shlomi birtu kan neugunchish tsagrish ya beselom mekanew angetish tutotchish menderin yaskom jinnet yalesh enkenelelebish kekonjoch belaynesh enkenelelebish on judge blindness.
Carnet de voyage en Éthiopie, Abyssinie Swing avec Francis Falsetto, réalisation Cyrielle Weber, préparation Mathilde Bosson, prise de son et mixage Jean-Michel Bernier.